J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'écouter Radio Okapi et parole aux auditeurs, son émission 100% interactive. C'est jeudi 4 novembre 2010, nous parlons sport avec vous, fidèles auditeurs de Radio Okapi. La République démocratique du Congo a déposé sa candidature depuis le mois de septembre dernier auprès de la Confédération africaine de football CAF en vue de l'organisation de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2015. À cet effet, une délégation des experts, des inspecteurs de la Confédération africaine de football CAF séjourne à Kinshasa pour une mission d'inspection sur les différents sites pouvant abriter les différentes compétitions lors de la CAN 2015. Quatre sites ont été retenus, à savoir Kinshasa, la capitale, Lubumbashi dans le Katanga, Kisangani en province orientale et Mbujimayi au Kassai oriental. Le pays doit disponibiliser au moins 4 stades, si possible dans 4 villes différentes. La RDC compte déjà 3 stades, le stade des Martyrs, et le stade mythique Tata Raphaël de Kinshasa et le stade de la Kenya à Lubumbashi. Notons que la RDC se bat aux côtés de la République sud-africaine et du Maroc. Une seule question pour cette émission. Quel état des lieux faites-vous des infrastructures sportives dans votre milieu? Parole aux auditeurs. Reçoit dans ces studios Monsieur Pierre Célestin Kabalamouanamboui, outre sa casquette de consultant sportif à Radio Capi. Il est également membre de Colocan, comité local d'organisation de la CAN. Cynthia Bachizi à la réalisation de cette émission, supervisée par Nicole Ngaka, et Willem Lungamba à la mise en onde de Pierrot et la Meiji à la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs par internet pa@radiookapi.net.
Monsieur Pierre Célestin Kabalamouanamboui, bonjour et bienvenue au studio de Radio Okapi.
Bonjour Pierrot, bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Très heureux encore une fois de vous avoir au studio pour parler sport. Et cette fois, nous revenons sur un sujet que nous avions déjà parlé dans une facette avec les auditeurs. C'était quand la RDC avait déposé sa candidature. Mais aujourd'hui, les choses ont marché quand même parce que déjà, les inspecteurs de la FIFA sont là. Si on peut dire qu'ils sont arrivés, les autres vont venir. Mais du moins, cela est concret qu'ils sont arrivés pour voir enfin qu'est-ce qui se passe au Congo. Est-ce que vous pouvez le confirmer?
Bon, Pierrot, je confirme l'arrivée des inspecteurs. Il y a M. Dibril qui est déjà sur place et il y a M. Camara qui arrive le 6 et il y a M. Niofan qui arrive le 8.
Et à quoi consiste leur mission?
Bien, vous le savez, nous avons déposé notre dossier des candidatures auprès de la CAF au mois dernier, le 27 plus précisément, et les inspecteurs viennent confronter ce qui est dit dans les dossiers aux réalités sur le terrain. Ils viennent voir concrètement quelles sont les possibilités qu'offre la République démocratique du Congo pour la matérialisation de ces projets d'organisation de la CAN 2015.
Et vous dites qu'ils viennent voir ce qui a été présenté. Ce qui a été présenté, cela veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont au Congo. C'est-à-dire que le Congo a eu d'abord à inspecter ses infrastructures, à inspecter ses possibilités avant de pouvoir les présenter à la CAF.
Tout à fait. Vous le savez, c'est depuis novembre 2008 que le gouvernement congolais a pris la résolution de pouvoir présenter sa candidature à l'organisation de cette CAN. C'était d'abord pour l'édition 2016 et la CAF a pu reformuler ses éditions. Et le gouvernement a mis sur pied, par l'entremise du ministère de la Jeunesse et des Sports, un comité local d'organisation qui est interinstitutionnel, dans lequel sont représentées pratiquement toutes les institutions, donc le gouvernement, le Parlement, et nous avons aussi tous les ministères qui sont concernés, partant des finances jusqu'au niveau des affaires foncières et même de sport et loisirs. Alors, nous avons élaboré un dossier bien ficelé qui a constitué donc l'acte de candidature. Le chef du gouvernement, le Premier ministre, avait adressé la lettre d'intention à la Confédération africaine de football et nous l'avons confirmé par ces dossiers. C'est un dossier assez volumineux et qui comprend comprend les aspects technico-sportifs avec les infrastructures, mais aussi toutes les garanties nécessaires, notamment au niveau de la sécurité qui doit être assurée avant, pendant et après la CAN 2015, avec tous les projets de réforme et d'amélioration des développements des installations aéroportuaire et tous les plans de développement des installations sportives et aussi l'érection de l'industrie hôtelière capable de recevoir tous les invités qui viendront à cette occasion.
Voilà, j'ai parlé au début, en introduction, je parlais de Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Mbujimayi. Est-ce que c'est ça les quatre sites qui sont retenus ou bien ça a été modifié?
Ce sont les quatre sites, mais il y a un petit équivoque qu'il faudra peut-être lever et qui ne m'appartient pas de lever. Ce sont les quatre sites sur lesquels nous avons travaillé et c'est là en fonction de certains critères qu'exige la Confédération africaine de football et ce sont les sites que la CAF vient faire visiter.
Voilà. Et quand la CAF visite concrètement, ça veut dire qu'ils voient, comme vous l'avez dit, le stade disponible, les stades qu'on peut ériger, les hôtels, la communication, voilà, tout cela, les inspecteurs voient, ils jettent un coup d'œil. Mais par exemple, là où il n'y a pas quelque chose de concret, supposons qu'on dise dans cette ville où on veut bien garder ça comme site, mais alors, est-ce que là aussi on présente aux inspecteurs quoi, les projets de construction de nouveaux stades, mais qu'est-ce qu'on leur présente concrètement dans une ville, par exemple, où il n'y a pas encore des éléments réunis?
Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien, Pierrot. À ce moment-là, c'est à notre détriment. Si on n'a rien présenté, c'est ça le risque. Si on n'a rien prévu ou on n'a rien fait, on ne peut rien présenter. Et ils noteront à leur retour que le Congo a dit cela sur papier, mais sur terrain, il n'y a rien. Et ça sera peut-être un autre désavantage.
En fait, on voudrait savoir, si par exemple on n'a pas un stade qui répond aux normes et qu'on a le projet de construire ces stades, par exemple dans 2 ans, 3 ans, oui. Est-ce que la CAF peut aussi donner crédit au projet qui n'est pas encore matérialisé?
Voilà, c'est ça, la tradition est celle-ci. La CAF, dans son cahier de charges, exige par exemple qu'il y ait un stade de compétition dans chaque site et qui pour les matchs d'ouverture doit avoir une capacité d'au moins 40 000 places et les stades d'entraînement qui doivent être d'au moins 20 000 places, ou plutôt les stades des matchs préliminaires. Alors, le pays candidat doit devoir présenter à la Confédération africaine de football, aux inspecteurs, les plans au sol d'érection de ces installations et doit présenter des actes administratifs qui prouvent qu'ici sera érigé un stade de telle capacité parce que les étendues sont définies dans le cahier des charges. Par exemple, pour un stade de compétition, il faut au minimum 17 hectares parce que on ne veut plus de stades de Moyen Âge. Ce sont des stades modernes et qui sont en général omnisports et qui sont assez complexes. Et pour les hôtels, on doit également présenter. Et ces installations-là, dans leur éloignement, doivent devoir répondre à certaines conditionnalités. Par exemple, on vous dit que les lieux d'hébergement des athlètes ne doivent pas être plus éloignés du stade des compétitions ou du stade d'entraînement de plus de 45 minutes en véhicule. Alors, il faut en même temps avoir tracé des routes qui doivent, n'est-ce pas, relier ces installations-là. Il y a tout cela et qui doit être réuni, donc vous comprenez pourquoi. Il faut que ça soit une volonté de tout un pays, de tout le gouvernement et de tous les spécialistes dans un pays pour pouvoir réunir les intelligences et les moyens qu'il faut parce que ça, au-delà du sport, c'est tout un projet de développement.
Voilà, on vous garde en ligne parce qu'il y a aussi les auditeurs, hein, comme Polybe qui nous appelle de Kindu, qui vont aussi donner leur point de vue, nous témoigner un peu comment ça se passe chez eux. Nous ne parlons pas seulement des quatre sites prévus, mais ils peuvent aussi avoir des idées au-delà des quatre sites, au-delà des potentialités qu'on peut avoir à travers le pays. Polybe, on pourra vous accorder la parole juste après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Polybe, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Vous êtes à Kindu, dans le Maniema, je crois bien.
Oui, c'est à Kindu, dans le Maniema.
Voilà, on vous écoute, Polybe. Vous venez de suivre monsieur Pierre-Célestin Kabalamonamboui, toutes les conditions qu'il faut réunir aujourd'hui pour organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Nous en avions déjà parlé, vous rappellerez, il y a quelques mois, mais aujourd'hui, on en parle encore, parce que d'abord, la délégation de la CAF est déjà là, les autres vont arriver, ce qui veut dire que le travail concret commence dans l'inspection, et nous faisons l'état des lieux de ce qu'on peut avoir et de nos capacités pour organiser la CAN. On vous écoute, Polybe.
Bon, en tout cas, je vais d'abord commencer par parler de conditions. Là, il n'y a que deux conditions. Il y a d'abord la gestion rationnelle de l'argent de l'État. Vous savez, on vient de voter le budget 2011 sans qu'on passe à peine fin le budget 2010 et qui n'était exécuté qu'à moins de 70%. Vous pensez que là-bas nous pouvons nous permettre d'organiser une telle compétition et construire les stades? Là, c'est donc la plus grande condition, la condition sine qua non, c'est la gestion rationnelle. Alors, je vais vous dire ceci. Mobutu n'avait rien fait, mais les quelques infrastructures sportives qu'il a laissées, les stades de Martyrs, témoignent bien les soucis que Mobutu avait de ce secteur. C'est aussi, bon, c'est un héros, mais les bandits d'hier sont les héros d'aujourd'hui. Lui n'a pas été retenu comme tel. Par rapport aux infrastructures
sportives,
dans ma province,
Polybe, s'il vous plaît.
Il n'y a qu'un seul stade.
Polybe.
Oui.
Si vous pouvez vous recadrer un peu, vous dites, parlez en termes clairs. Les bandits d'hier sont devenus, c'est parce que vous avez ajouté, parlez en termes clairs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je voudrais dire que les gens qui sont héros aujourd'hui n'étaient que les malfaiteurs d'hier. Alors, si Mobutu était malfaiteur et qu'il a laissé les infrastructures sportives convenables, il fallait qu'on les proclame aussi héros. Parce qu'il a fait quelque chose dans ce pays. Les gens qui n'ont rien fait, les gens qui n'ont rien foutu ont été déclarés héros.
Voilà.
Je ne sais pas pourquoi.
Polybe, on s'éloigne de plus en plus. Vous éloignez de plus en plus du cadre dans lequel nous parlons. On ne parle pas des gens qui ont fait quoi, qui sont proclamés héros. Nous parlons juste des infrastructures. Vous, à Kindu, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme infrastructure sportive à Kindu, là où
nous
vous êtes?
Nous avons un petit stade. D'ailleurs, c'était malheureux de voir une équipe comme Mazembe jouer et dans ce stade dans lequel traverse les véhicules, les chariots et consorts. En tout cas, au Maniema, il n'y a rien. Je vous dirais qu'il n'y a qu'un stade, stade DG.
Merci.
Autres stades sont les cours de récréation des écoles. Il n'y a rien.
Voilà, donc, merci.
Pensez organiser la Coupe du Monde à RDC.
La Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, la Coupe d'Afrique des Nations.
On gère bien l'argent, on saura organiser les règles.
Merci, Polybe. Vous êtes à Kindu, dans le Maniema, où les auditeurs des Radio Capi nous écoute, je crois bien, sur 103.0 MHz. On rentre ici à Kinshasa. Bongol, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Pierrot et l'ami.
Vous venez de suivre Polybe de Kindu, qui pense que le problème va commencer d'abord par la gestion rationnelle des finances que nous avons. C'est cette gestion qui peut nous permettre d'avoir autant de projets qui peuvent aboutir à l'organisation de la CAN. Quel est votre point de vue?
Oui, je ne suis pas tout à fait contre ce que Polybe venait de dire. La République démocratique du Congo a tous les atouts nécessaires pour organiser la CAN et surtout qu'elle sera en 2015. Donc en dehors des infrastructures que nous avons, s'il y aura vraiment la volonté de l'organiser, on peut toujours aboutir à ce qui sera concret. Mais par rapport à ce que nous avons comme infrastructure, surtout ici à Kin, nous sommes en plein 21e siècle et dans un pays comme le nôtre, en dehors du stade des Martyrs, on ne peut pas compter un autre stade pour parler de l'organisation de la CAN. À moins qu'on puisse construire ou soit réhabiliter le stade de Tata Raphaël, mais actuellement, nous n'avons que le seul stade de Martyrs pour organiser une telle compétition.
Merci, Bongol. Vous pensez qu'avec un peu de volonté, on peut parvenir à organiser la CAN qui va avoir lieu en 2015? Vous pensez qu'il y a assez de temps, mais avec la volonté, on peut y parvenir. Nous allons à Bounia, province orientale. Kibasima, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
On vous écoute, Kibasima. Qu'est-ce qu'il faut faire enfin pour que nous puissions être à la hauteur d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations comme nous l'avons souhaité en 2015?
Merci de m'avoir accordé cette parole, cette opportunité. Je salue d'abord tous les étudiants de l'université Shalom de Bounia. Et je salue aussi tous les auditeurs de la Radio Capi, pourquoi pas tous les journalistes de la Radio Capi.
Merci.
Merci. À propos de ce sujet du jour, j'ai l'avis, n'est-ce pas, que pour que la chose évolue bien à propos des camps de 2015 en RDC, il faut effectivement que qu'on puisse un peu que le gouvernement puisse un peu mettre un peu avoir cette volonté, disons, de aider ce pays pourvu que la chose marche. De toute façon, une fois si il y a le silence de la part du gouvernement, bien sûr, je suis certain que la chose ira très bien. C'est pourquoi je suis dit peut-être au gouvernement de la République démocratique du Congo de mettre paix, la main forte à nos joueurs de la RDC. Voilà ma contribution.
Merci Kiba Simon. Vous êtes à Bounia, en province orientale, je crois bien. Vous nous suivez sur 104.9 MHz. Pour ceux-là qui sont à Bounia, qui ont besoin d'écouter Radio Capi, on termine cette première série avec Jérémy qui est dans les Bandundu. Bonjour. Jérémy, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est Jérémy de la Bandundu.
C'est Jéry, hein. C'est Jéry. Vous êtes dans les Bandundu. On vous écoute, Jéry. Est-ce que vous pensez qu'à l'allure où vont les choses, quand vous regardez la ville de Bandundu, quand vous regardez Kinshasa et les autres villes de la RDC, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous les connaissez par le média, vous pensez qu'il est possible que nous puissions, d'ici 2015, accueillir la grande compétition, la Coupe d'Afrique des Nations?
Oui, mais c'est les journalistes. Il est très possible d'accueillir ces compétitions, mais moi, je me flore de notre gouvernement. Je ne sais pas. Est-ce que le gouvernement central ne savait pas que les inspecteurs doivent arriver pour faire leur inspection dans notre pays? Or, nous avons tant de pays qui ont postulé avec nous. Or, si les inspecteurs partent dans ces pays, ils trouvent que toutes les infrastructures qui sont en ordre. Ici, à Ono, au Congo, donc, il n'y a pas d'infrastructures en ordre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont donné ces coupes ou bien ces compétitions dans l'autre pays. Donc, ça, c'est les choses qui me déplorent. Tellement ici à Bandundu, nous avons un grand stade. Si on réhabilite ce stade ici à Bandundu, donc, il aura des compétitions ici. Donc, moi, je déplore de cela. Donc, notre gouvernement est incapable. Donc, il organise des choses comme l'air tête fait. Hein?
Vous voulez dire qu'on organise des choses rapidement, sans les préparer, c'est ça?
Oui. Ici, au Congo, on organise des choses sans même préparer. Je peux dire que c'est là.
Voilà. Merci, Jerry. Votre inquiétude, c'est que les inspecteurs sont arrivés, mais vous vous rendez compte, comme si rien n'est prêt, ils risquent de rentrer déçus et à confier la canne à d'autres pays. Vous avez dit qu'il y a des gens avec qui on est en train de se disputer cette organisation. Je crois bien c'est l'Afrique du Sud et le Maroc. Notre invité pourra nous le dire tout de suite après quelques secondes.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiookapi.net.
Monsieur Pierre Célestin, avant d'aller en profondeur avec les auditeurs, et une autre question que je pourrais vous poser, parce que ça, c'est Géry qui vient de le dire, je crois bien à côté de la RDC, il y a aussi l'Afrique du Sud et le Maroc, je crois.
Affirmatif, il y a l'Afrique du Sud et le Maroc.
Voilà. Et maintenant, revenons, parce que les auditeurs, dans leur inquiétude, ils parlent de la volonté. S'il y a la volonté, on peut organiser la CAN. Ils disent qu'on n'a pas assez d'infrastructures. Mais aujourd'hui, revenons à ce que vous avez présenté dans notre dossier auprès de la CAF, que ce soit à Kinshasa, à Mbujimayi, à Kisangani, à Lubumbashi, en termes concrets aujourd'hui que vous, parce qu'ils sont là, vous allez quand même le présenter. Qu'est-ce que concrètement vous allez leur présenter qui est déjà quand même prêt, qui peut permettre à ce que le dossier puisse être bien mieux poursuivi jusqu'au bout?
Oui, merci Pierrot. Ce que je dois dire d'abord, c'est que nous avons présenté pour Kinshasa le stade de Martyr, et qui doit être amélioré en profondeur, parce qu'il ne répond pas totalement aux conditions pour abriter une Coupe d'Afrique des Nations. Je donne un exemple. Il faut 400 places pour la presse dans ce stade-là. Or, l'architecture du stade de Martyr n'a pas prévu tout cela. Il faut une tribune VIP. Cela n'est pas prévu dans ces stades. Donc, il y a des choses qu'il faut totalement cassé, refaire.
Voilà.
Et il faut des salons pour la FIFA, pour la CAF, des centres de presse, des centres d'émission, les emplacements pour les interviews. Tout cela doit être absolument modifié. Et cela est prévu. Et il nous faut aussi carrément démolir, refaire le stade Tata Raphaël. Peut-être dans les alentours, tout dépend, il faudra ériger peut-être des tours hôtelières pour recevoir les délégations. Il faut donc prévoir un village olympique. Nous sommes en train de penser à une synergie entre le programme de réhabilitation de la cité de l'Ancelé avec le projet de la CAN. En dehors de l'hôtel, des hôtels, nous devons participer à la réhabilitation de cette cité, parce que c'est de cette façon-là que ça s'est fait ces derniers temps, ou alors simplement avoir un lotissement qui doit permettre au comité local d'ériger un village olympique, quitte à ce qu'après ces villages soient revendus ou cédés en location-vente à des entreprises ou aux services publics. Ça, c'est pour ce qui est de Kinshasa. Il est prévu également de bouquets touristiques parce que c'est impératif pour le moment. L'organisation de la CAN doit être assortie des activités touristiques. Le football doit être accompagné du tourisme. Et nous devons prévoir des sites touristiques de Kinshasa. Nous en prévoyons évidemment, notamment avec notre bonobo qui est exceptionnel, qui est unique au monde, énigmatique. Et nous devons prévoir aussi les trucs comme les pêcheurs des Kinkolé et j'en passe. Voilà, ça c'est pour Kinshasa. Voilà. Et il faut prévoir les moyens de télécommunication qu'il faut améliorer. Il faut, comme il y a déjà, nous sommes un petit peu en avance, et peut-être que cela sera notre avantage avec la pose du câble que vous connaissez.
Pour la fibre optique et pour la connexion Internet, oui.
Voilà, il faut donc ces moyens parce que nous devons être sûrs que nous allons retransmettre et d'une manière efficace les images à travers le monde. Voilà. Ça, c'est pour Kinshasa. Et pour Kisangani, nous avons prévu... Kinshasa, nous devons également réfectionner 4 stades d'entraînement. Et nous avons prévu la réfection et la modernisation du stade Cardinal Malula sur l'avenue Kasavubu. Le stade de Kitambo, le Vélodrome. Nous avons prévu également d'ériger un stade à Njili, par exemple, à la place Sainte-Thérèse, il faut qu'il y ait un stade et nous avons un 4e stade qui doit être érigé entre le collège et un autre emplacement qu'il faut choisir. Et déjà, nous avons pris langue avec le gouverneur de province qui a mobilisé déjà tous les services pour que d'ici le week-end, nous aurions déjà vu et confirmé les sites qui ont été choisis. Voilà ce que nous avons fait pour Kinshasa.
Et alors, la suite en province...
Kisangani, là, il se pose un très grand problème d'emplacement. Peut-être que nous serons obligés de sortir du centre-ville. Il y a d'abord le stade Lumumba de Kisangani qui doit être totalement réfectionné ou tout simplement rasé pour être reconstruit. Et il nous faut un stade des compétitions là-bas. Et il nous faut trouver d'autres emplacements pour les stades d'entraînement. Il en faut 4 au total.
Dans chaque site.
Dans chaque site. Il en faut. Et à Lubumbashi, peut-être qu'il y aura moins de problèmes à Lubumbashi parce que il y a déjà des places qui sont pré-indicatoriées. Et nous avons évidemment des stades comme celui de Mazembe qui est déjà pris en compte. Il y a le stade de Lupopo qui est pris en compte. Et nous cherchons un emplacement pour la construction de nouveaux stades de compétition et puis l'amélioration du stade de Kibasa Maliba. Sur le plan hôtelier, évidemment, là, il faut construire un hôtel à Lubumbashi. Et pour le stade de compétition, nous sommes en train de penser à un terrain qui est situé dans les environs du centre d'hébergement du tout-puissant Gleybert Mazembe, dans le quartier du Golfe. Là, nous avons déjà quelques présomptions. Et pour Mbujimayi, évidemment, là, il faut penser à élargir la ville, aller au-delà de la ville, peut-être aux environs de l'aéroport, pour ériger un stade de compétition et raser les stades qui existent actuellement, le stade de Kikisha et le stade de l'Amiba, semble-t-il, est investi par la police nationale ou l'armée. Il faudra les déguerpir pour remettre cela à la vocation initiale. Et il faut trouver des emplacements pour ériger un village olympique et un hôtel de 5 étoiles.
Voilà. Dieu donné, vous êtes à Kananga, mais en regardant tout cela, Pierre-Célestin Kabalomonambouy, nous n'avons pas encore évoqué le coût, parce qu'il faudrait aussi qu'on en parle, combien d'argent ça demande.
Oui.
Mais est-ce que on sait que ça va être colossal, l'argent qu'il faut dépenser? Est-ce que c'est seulement le pays organisateur qui prend la charge de tous ces travaux? Le pays va-t-il recourir aux capitaux extérieurs? Le pays, est-ce que il s'organise avec des souscriptions des sociétés qui voudraient soit l'une s'investir dans la construction de stades, l'autre? Comment ça s'organise? Parce que je me demande, ensemble avec tout ce que vous avez décrit, ce que ça peut coûter et comment la RTC seule peut s'en sortir en 2-3 ans pour réussir tout cela.
Oui, Pierrot, nous avons bouclé notre dossier à une hauteur de 2 milliards 500 millions de dollars.
Dollars américains.
Voilà. Et cela peut couvrir, en tout cas, presque la totalité de notre projet, parce que l'ensemble et chaque projet constitue un projet bancable. Mmh. Et nous avons procédé à des appels d'offres sur le plan international. Mmh. Heureusement que notre comité, avec l'aide de nos compatriotes qui sont de la diaspora, nous avons pu avoir une réponse positive d'une société américaine et qui est prête à nous disponibiliser les 2,5 milliards de dollars pour couvrir cela. Mais vous savez, dans les capitaux internationaux, il y a des conditions. Il faut qu'il y ait des garanties que le gouvernement doit pouvoir donner. Je ne suis pas dans ces sphères-là. Voilà. Et je ne peux pas dire à quel niveau ils en sont aujourd'hui. Mm-hmm. Mais en tout cas, le ministre de la Jeunesse et des Sports et un membre de notre comité ont pu effectuer un voyage aux États-Unis d'Amérique, mm-hmm. où ils ont rencontré les financeurs qui leur ont donné des garanties et même les assurances pour la disponibilisation de ce financement-là. Mm-hmm. Alors, ils attendent maintenant que l'État congolais puisse donner. Il y a toujours dans les systèmes de financement, il y a une garantie qui a été fixée à 1 million, plutôt à 10 millions de dollars, mm-hmm. mais ils ont revu cela à la baisse compte tenu des difficultés que rencontre le gouvernement congolais, et ils ont pu se faire couvrir de garanties de la Banque mondiale. Je crois qu'ils sont arrivés au niveau où on a baissé totalement la garantie qu'exigeait la société de financement et les banques américaines qui sont prêtes à investir dans
voilà.
ce domaine.
Voilà. Dieudonné, vous êtes à Kananga, Ange, vous êtes en Bandaka, vous avez la parole tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Dieudonné, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes à Kananga, au Kassai occidental, hein, c'est pas loin de Mbujimayi. Si Mbujimayi abrite déjà la compétition de la CAN, vous vous rendez compte que vous qui êtes à Kananga, vous êtes totalement impliqué dans cela, Dieudonné.
Ah, monsieur le journaliste, vous voyez que c'est déplorable. Quelque part là, on ne sait pas si cette organisation de la CAN sera concrétisée. Je ne sais pas. Vous voyez que compte tenu de ce que vous avez énuméré comme condition pour organiser la CAN, est-ce qu'on a la volonté fermement de débloquer tous ces moyens pour organiser la CAN, monsieur le ministre? Mmh. C'est important à ce niveau-là. Mmh. Alors, ici à Kananga, Kananga, c'est une ville du Congo, une ville qui est marquée dans l'histoire du Congo ici. Quand on manque un peu à insérer Kananga dans la liste, là, vous voyez que ça dégénère quelque part, là. Et d'abord, vu d'abord, le stade qui est à Kananga, ici, c'est 414 Kapanda. Le stade est déplorable, ça n'a pas des infrastructures pour un peu organiser la CAN ici. Alors, ça ne va pas jusque-là.
Voilà. Dieudonné, si on vous écoute, votre première inquiétude, c'est au niveau de la volonté. Vous avez tellement entendu ce que Pierre-Célestin oui. Kabalamonambouya décrit comme travail oui. à faire. Oui. Vous avez peur que cela devienne coûteux, qu'à un certain moment, qu'on manque la volonté d'organiser la CAN. Mais d'un côté aussi, vous dites que Kananga, c'est une grande ville. Il fallait aussi qu'on pense à mettre un site à Kananga. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les terrains d'entraînement, s'il faudrait les moderniser et les espaces qu'il faut ériger les terrains, vous en avez à peu près combien? Vous pouvez faire l'idée à Kananga?
Ah bon, je n'ai pas une idée précise, monsieur le ministre, sinon on sera souvent au stade de Kapanda là, on voit les stades ne peut jamais être inscrit sur la liste, ça ne convient pas, monsieur le ministre. Mmh. Sinon je voulais un tout petit peu intervenir même au niveau national là,
oui.
voir aussi l'état même des stades, d'abord les stades numéro 1 du Congo, c'est les stades des martyrs là, vous voyez que jusque là, les stades compté numéro 1 n'a pas d'abord réuni toutes les conditions requises pour organiser la CAN. Mais a fortiori, dans des provinces, là, n'en parlons pas, monsieur le journaliste.
Voilà.
Le problème qui est ici, on a un peu, je disais exclusivement les termes, on a un peu des zombies politiques. Je ne sais pas. Vous pensez que dans les 5 ans qu'on a fait, si on n'a pas pu même réaliser quelque chose, mais avec l'organisation de la CAN, c'est un processus, et pour aussi avoir la volonté et une bonne gérance.
Voilà.
Alors, ouais, que quand on est un peu loin de ces deux éléments majeurs, d'avoir la volonté et la bonne gérance. Alors, c'est loin de là. Comment on va? Ça, c'est une organisation de la CAN utopique chez moi. Moi, je ne suis pas, je suis sceptique.
Voilà, mais Dieudonné, vous êtes sceptique, vous pensez que...
Oui,
quand vous regardez la manière dont les choses se passent, vous sentez vraiment qu'il sera impossible d'atteindre les objectifs et d'organiser la CAN. Voilà, merci.
Je ne sais pas.
Merci Dieudonné, merci. Nous allons donner la parole à Ange qui est en Bandaka. Ange, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Pierrot et la Miche.
Vous venez de suivre Dieudonné de Kananga, il est sceptique et quand il regarde les 5 ans après les élections de 2006, il pense que c'est pas possible qu'on organise la CAN, hein. Il ne voit pas vraiment la volonté ni les moyens, il a une bonne gestion qui peut permettre qu'on arrive quand même à débourser l'argent, à faire tout ce qui est décrit par Monsieur Pierre-Célestin Kabalomonamboui, enfin que la CAN soit organisée en RDC. Êtes-vous sceptique ou pouvez-vous penser qu'on peut y arriver?
Moi, je suis optimiste. Je me rallie à la sagesse de mon frère Joël Bongolo lorsqu'il disait que notre pays a les atouts capables d'organiser une compétition telle que la CAN. Mm-hmm. Et d'ailleurs, donc, la volonté de notre gouvernement est en train de se matérialiser. Donc, les inspecteurs de la FIFA sont déjà là. C'est déjà, ça prouve déjà que notre gouvernement est déterminé à organiser cette compétition. À suivant votre invité, qui est d'ailleurs expert à la matière, c'est quelqu'un que je respecte ses propos. Donc, à l'étape où nous sommes, c'est vraiment une étape décisive. Parce que, il s'agit là de choisir le pays qui va organiser. C'est pas seulement notre pays qui est l'un des seuls candidats. Non. Nous avons au moins plusieurs candidats.
Il y a le Maroc et l'Afrique du Sud.
Oui. Ouais, surtout les deux pays là, le Maroc et l'Afrique du Sud, ce ne sont pas des pays à négliger, lorsqu'on regarde les infrastructures que ces deux pays possèdent. Et pour arriver à organiser cette compétition, je demanderais tout simplement qu'il y ait la volonté et qu'on puisse monter une équipe solide, composée aussi de personnes capables, de personnes, comment dirais-je, les experts tels que votre invité. Il ne faut pas dans cette équipe, qu'il ne faut pas recruter les gens en tenant compte des couleurs politiques, des obédiences politiques, en tenant compte de leurs expertises. C'est ça ce que moi j'avais
merci.
À dire. Et puis, à ce qui concerne les sites, je me réjouis aussi comment le gouvernement a choisi les sites parce qu'à Kinshasa, les Mbandaké ou bien les Équatoriens auront la possibilité de se déplacer avec un petit $10. Nous pouvons prendre aussi le bateau
et puis arriver à Kinshasa et regarder le match.
Quel est le cas aussi pour les gens de Matadi et les gens de Bandundu?
Mmh.
À Lubumbashi, parce que Lubumbashi est éloigné des autres provinces, les gens du Katanga vont tout simplement se réjouir. Et puis, derrière, les gens de Kasai vont souvent étudier à Lubumbashi. Les gens qui habitent aux frontières entre Katanga et Kassai, ils vont tout simplement franchir les frontières.
Et les Maniema aussi.
Et les gens des Maniema, et oui, et surtout les gens des Maniema aussi ont la possibilité d'aller à Lubumbashi. Et là, les gens de SDP, c'est-à-dire Bukavu, Goma,
ils peuvent monter à Kisangani.
Arriver à Kisangani, les gens de Bunia prennent la route Bunia, Nyanya, Manalia et Kisangani.
Voilà.
Donc, je me réjouis.
Vous maîtrisez la carte géographique du Congo, les regroupements des sites, ça c'est très bien. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Mbandaka, mais vous avez soulevé quelque chose de très important, c'est la composition de l'équipe hein, qui doit se charger de ces dossiers. Vous souhaitez qu'il y ait des hommes qui maîtrisent les domaines de sport, des techniciens,
Des personnes Moi j'ai regretté lorsque j'ai suivi que votre invité a été limogé de cette équipe. Je me suis toujours dit, si on limoge une telle personne, bon, cette équipe va tomber en faillite. Parce que ce sont les gens que nous cherchons. Ce sont les gens qui vont redresser le sport dans notre pays.
Merci, Ange.
Ce sont les gens qui réagissent sans tenir compte de l'obédience politique. Ils ne roulent pas pour une partie politique.
Merci beaucoup, Ange. En tout cas, on ne saura pas vous accorder longtemps la parole. Vous avez des bonnes idées. Mais il faut aussi signaler à nos auditeurs que quand la CAF choisit et donne la mission d'organiser la CAN à un pays, ce n'est pas seulement parce que le pays a déjà toutes les infrastructures, mais c'est aussi une façon d'aider le pays à développer les infrastructures. C'est qu'on peut donner au pays qui n'a pas encore tous les stades, mais c'est une occasion pour les pays de construire ces stades et d'améliorer ces infrastructures. Merci beaucoup, Ange de Mbandaka. En Mbujimayi, c'est Georges qui est en ligne. Georges, bonjour.
Bonjour.
Et d'abord, quel est le sentiment que vous avez hein, du fait qu'un Mbujimayi est retenu parmi les sites qui doivent abriter la CAN 2015?
Justement, personnellement, mes sentiments sont des sentiments de joie, parce que depuis un certain temps, ça fait 2 ans que notre équipe Sangabalende est en train de se défendre au niveau de l'INAFOOT. c'était tout à fait normal qu'on puisse penser à ce que la CAN puisse aussi être organisée en Mbujimayi.
Mais quand on regarde maintenant la ville de Mbujimayi, les stades que vous avez, le terrain, les hôtels, les routes, tout cela, est-ce que vous pensez que Mbujimayi peut d'ici 2015 accueillir la CAN 2000, en fait d'accueillir la CAN?
Oui, tout à fait. Et je trouve que tout dépend de la volonté politique. Hein. Le fait que les autorités aient choisi le site de Mbujimayi, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose s'il y a la volonté. Parce que, personnellement, je suis optimiste, mais mon optimisme, c'est un optimisme prudent, parce qu'il ne faudra pas que toutes les affirmations de votre invité, que j'apprécie bien, puissent être des déclarations de bonnes intentions seulement. Il faudrait que le gouvernement puisse y mettre.
Pour matérialiser cela.
Pardon ?
Pour matérialiser cela.
Oui, pour matérialiser cela. Parce que sinon, la République risque de sortir comme une aventurière dans cette histoire si nous n'arrivons pas à nous mettre sérieusement.
Voilà, merci. Georges, vous êtes en Mbujimayi, au Kasaï Oriental, l'un des sites pour la CAN. Hein. Les auditeurs nous écoutent sur 93.8 MHz. Nous allons à Kisangani, hein, c'est aussi un site Mbujimayi qui s'en suive. Philippe, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour M. Pierrot et bonjour à M. Pierre.
Pierre-Célestin Kabalamonambouy, vous avez suivi Georges de Mbujimayi, content parce que Mbujimayi est l'un des sites retenus. Kisangani, la même chose, la même question, je peux vous la poser. Les sentiments que vous avez du fait que Kisangani puisse abriter cette compétition prestigieuse de la CAN.
Sentiment de joie, Monsieur Pierrot. Je voudrais dire d'emblée que la Coupe du Monde de la FIFA 2010 a laissé un héritage, non seulement pour les CAP, mais pour toute l'Afrique du Sud et pour le continent africain. Je suis très content que Kisangani soit retenu comme site, parce que ça va permettre que les infrastructures prennent forme. Kisangani peut donner 17 hectares fois 5 ou bien fois 10.
C'est-à-dire que vous avez autant d'espace?
Oui, nous avons de l'espace. C'est question seulement de la volonté politique. Que ce ne soit seulement pas un chapelet d'intention. Nous demandons à notre gouvernement national et au gouvernement provincial de faire un effort, parce qu'on ne peut pas attendre les dernières minutes pour commencer les travaux. Donc, je suis à Kisangani, mais bien que Kisangani soit retenu comme un site, mais on ne voit pas les préparatifs de cette coupe-là, de cette organisation. À quel est le début des travaux?
Voilà. Merci Philippe. Vous êtes à Kisangani où les auditeurs nous écoutent sur 94.8 MHz. Nous allons aussi donner la parole. Je crois bien la réalisation m'indique qu'il y a aussi Sylvain qui est en ligne. Sylvain nous appelle de Bougne en province orientale. Sylvain, bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà. S'il arrive qu'en 2015 qu'on ait la CAN effective ici en RDC, vous êtes à Bougne. Par quels moyens vous pouvez vous déplacer pour aller vivre l'événement à Kisangani? Dites-nous, décrivez-nous un peu comment vous pouvez atteindre Kisangani pour regarder, vivre la compétition si ça s'organise en RDC.
Bon, en fait, pour d'abord arriver à Kisangani, ce n'est pas un problème. Si l'hypothèse est faite que déjà la Coupe d'Afrique des Nations au stade la CAN soit organisée au Congo, pour moi c'est une bonne chose. Mais arriver à Kisangani pour le peuple de Bounia, de l'Ituri en général, de M. Pierrot, je vous garantis que nous avons beaucoup d'agences qui voyagent là-bas très facilement. Certainement, il ne se posera pas un grand problème de transport.
Voilà.
Alors, permettez que je puisse quand même aborder le thème tel que mes prédécesseurs ont eu à réfléchir.
Allez-y, on vous écoute.
Nous sommes en train de nous poser un certain nombre de problèmes. Puisque aujourd'hui, la gestion des finances publiques de l'État n'est pas bien faite. Alors nous sommes en train vraiment de nous poser la question. Est-ce que pendant que le Congo organise les élections en 2011, le Congo organise encore la francophonie?
Le sommet de la francophonie en 2012, oui.
Oui, 2012. Attends, en fait, toutes ces organisations nous poussent à réfléchir et à penser si réellement si tout ça sera bien organisé. De tous les Congolais, et même nous, en ne mettant pas les Congolais, nous sommes d'accord que cette histoire s'organise, c'est nous. Mais je pense que la volonté affirmée du gouvernement doit être là. J'ai suivi l'homme que vous avez invité là-bas, il a l'impression de présenter que tout va bien au gouvernement congolais.
Non, il n'a pas dit ça.
Solidaire. Oui.
Ce qu'il, Sylvain, ce qu'il a présenté, ce sont les projets et les démarches qui sont menées jusqu'à ce niveau-là. Je crois, après votre intervention, nous allons lui donner la parole pour qu'il nous dise maintenant qu'est-ce qui est fait jusqu'à ce niveau. On est à quel niveau on est en fait à quel niveau sommes-nous. Mais ce qu'il a présenté, ce sont les projets, l'état des besoins et ce qui est déjà mené comme démarche et ce qui peut être fait. C'est ce qu'il a déclaré. Il n'a pas dit que tout se déroule bien au niveau du gouvernement.
Mais c'est pire. Je vais dire une chose pour terminer peut-être. Moi, à mon avis. Et je pense que le Congo a encore beaucoup à faire. Et imaginez, la CAN sera tenue à 2011, disons à 2016, ça sera la dernière législature du deuxième mandat et que nous sommes en train de préparer à partir de 2011. Et donc moi, il y a la problématique politique qui me fait comprendre que ces assises de la CAN seront tenues dans les grandes sujets et je ne crois pas que ça sera une grande réussite, à moins que nous changions la façon de gérer ce pays.
Voilà.
Ça pourra aller.
Merci Sylvain, vous êtes à Bounia, en province orientale.
Parole aux auditeurs.
Pierre Célestin Kabalamonamboui, vous avez suivi les auditeurs. On revient tous sur la volonté politique et notre capacité de matérialiser celle-là. Les auditeurs sont contents que la CAN s'organise. Tout le monde peut être content de ça. Mais aujourd'hui, vous êtes du comité local de l'organisation de la CAN. Eu égard au dossier, notre dossier tel qu'il a été déposé à la CAF et ce que vous faites sur terrain, dites-nous un peu si vous vous rendez compte que les choses marchent quand même dans un bon sens. Qu'on peut quand même arracher cette CAN parce que vous travaillez sur ce dossier.
Bien, Pierrot, je suis très sensible à tout ce que les auditeurs ont dit. D'emblée, je voudrais vous dire que au niveau du comité local d'organisation, cette volonté est manifeste. Mmh. Au niveau du gouvernement, cette volonté a été confirmée par la lettre d'intention du Premier ministre et la volonté du chef de l'État. Mais il reste maintenant la concrétisation de cette volonté. C'est-à-dire qu'il y a un minimum que le gouvernement devrait mettre en œuvre pour que, effectivement, on démarre et que tous les travaux démarrent. Mais je voudrais dire aux auditeurs qu'il faut faire la part des choses dans ce genre d'investissement. C'est-à-dire que pour ce qui concerne la CAN 2015, les travaux ne seront pas totalement financé par le gouvernement congolais. Je vous ai expliqué que le financement vient de l'extérieur. Et quand on reçoit ce genre de financement, la gestion de moyens financiers est tout à fait différente de la gestion publique. Nous sommes dans un partenariat public-privé. Et la société qui finance organise l'utilisation de ce financement-là pour qu'il arrive à atteindre le but escompté. Et c'est ce que nous ferons avec la société américaine. Et ce que nous demandons, c'est que les Congolais abandonnent la latitude, ou plutôt l'habitude d'être toujours sous le paternalisme de l'État, et qu'ils puissent s'insérer aussi dans la nouvelle gestion, dans la nouvelle vision de la gestion, et de partenariat public-privé. Il faut qu'ils se mobilisent pour participer déjà à la réalisation de ces projets, qui est un projet de développement durable pour l'ensemble du pays. Parce qu'il y a quelqu'un qui a parler de l'héritage, je l'en félicite parce que le projet ici est conçu justement dans le sens de pouvoir donner l'héritage non seulement aux provinces qui vont abriter les sites, mais aussi à toutes les provinces voisines. Par exemple, ce qui sera érigé en Bujimai doit avoir des retombées au Kasaï occidental à Kananga. Il y aura par exemple la réfection de la route Kananga-Mbujimai et éventuellement la mobilisation des fonds pour la construction, la réfection d'un stade à Kananga et surtout la mise en valeur de sites touristiques, par exemple du lac Mukamba et du lac Foi, j'en passe.
Voilà.
Cela sera de même avec le site de Kisangani qui aura des retombées sur Goma et Bukavu. Cela est prévu. Et nous situons également ces projets dans le sens de la restauration de la paix dans toute la région des Grands Lacs. Parce que vous voyez, nous avons 9 frontières avec les pays des Grands Lacs. Et cela est conçu dans ces sens-là. Et nous avons conçu également ces projets dans le sens du développement durable Par exemple, lorsque nous allons ériger des installations sportives, nous devons tenir compte de la formation future des cadres et des sportifs. Mmh. Et nous allons intéresser également les universitaires à pouvoir se réinsérer dans les activités sportives. Donc, tout cela doit mobiliser les Congolais. Évidemment, nous avons le devoir de pouvoir vulgariser toutes ces pensées pour qu'ils comprennent. Et actuellement, il n'y a pas que les structures publiques qui organisent ce genre de choses. Il y a un groupe de ceux qu'on appelle les volontaires. On les amène pour rappeler à ceux qui ne le savent pas. Le stade de Tata Raphaël à Kinshasa, par exemple, a été construit avec le concours des élèves et étudiants. Nous allons reprendre ces habitudes-là pour que la jeunesse puisse également s'investir dans ce genre d'entreprise pour que l'avenir soit assuré et que nous ne soyons pas dans le fainéantisme.
Mais voilà, l'inquiétude de Sylvain Debougna, par exemple, c'est autant de choses dans lesquelles nous pouvons être engagés qui peuvent nous compliquer parce que nous avons les élections de 2011 à 2012. On va avoir les sommets de la francophonie fin 2012 et à peine deux ans après, on doit avoir la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une période de la fin de la prochaine législature pour commencer à penser à préparer les autres élections. Alors lui, il a peur qu'autant de sommets, autant d'engagements, autant de dépenses qu'il faut faire, autant aussi de stabilité politique qu'il voudrait avoir autour de ça. Il a peur que cela ne puisse pas jouer en faveur de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais peut-être que c'est une question qui touche aux politiques pour savoir quelles sont les garanties de ce côté-là qu'on peut avoir pour qu'enfin qu'on organise la CAN et qu'il n'y ait pas un événement qui perturbe l'autre. C'est un peu ça l'inquiétude de Sylvain Debougna.
Oui, Sylvain Debougna a tout à fait raison, mais moi je ne suis pas venu ici en politique, je suis un expert et je viens parler comme un expert, mais je voudrais simplement lui dire, quand bien même l'on dit que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous, mais je voudrais lui dire tout simplement que nous faisons notre politique sportive. Voilà. Et que nous avons 67 millions d'habitants au Congo, et il y a autant de cadres que nous pouvons trouver dans chaque domaine, et l'étendue du pays, tout cela peut nous permettre, n'est-ce pas, de planifier les choses. Le sport, l'investissement dans ces domaines, c'est une chose. Ceux qui préparent la francophonie en 2012 sont d'autres personnes que celles qui préparent la CAN 2012 et ceux qui préparent les élections sont d'autres personnes. Donc il faut la division du travail et la planification pour que le tout converge. Converge vers quoi? Vers les développements du pays.
Voilà. Moussa est en Ouganda et Franck est à Kananga. On vous donne la parole tout de suite.
Parole aux auditeurs.
Mboussi, vous nous appelez de l'Ouganda. Bonjour.
Bonjour Radio Kapi, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes dans quelle ville en Ouganda?
Je suis à Kampala actuellement.
Kampala, et vous écoutez Radio Kapi par internet ou bien par l'antenne parabolique DSTV?
J'écoute Radio Kapi par internet.
Par internet, voilà. Et on vous écoute, vous suivez les débats, comment ils évoluent ici au studio. Et quand vous regardez, parce que nous tendons vers la fin de l'émission, vous avez suivi les uns et les autres, toutes les explications. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil technique et pratique qui puisse aider les compatriotes, aider tout le monde pour qu'on réussisse ces projets de l'organisation de la CAN?
Oui, je salue tous les auditeurs de Radio Kapi, je salue tous les journalistes et je suis content pour le fait que RDC candidat pour organiser cette CAN. Mais ce que nous regrettons plus, c'est le fait que tous ces programmes que la RDC a traités pendant cette période, nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas vraiment si tout cela pourrait marcher. Mais ce qu'on pourrait quand même faire, si tous les Congolais se mettaient au travail, et les Congolais de la diaspora, et le gouvernement congolais, pour que cela se tienne dans un délai raisonnable, ça pourrait marcher. Parce que si vous voyez actuellement le nombre de stades qui est en RDC, je pense qu'il est adapté spécialement les stades de Marseille.
Qu'il faut d'ailleurs moderniser, oui.
Pour organiser les cas, il aurait fallu au moins 5 à 8 stades. Et je pense que ce qui n'est pas fait en RDC, parce que dans ce délai, on ne peut pas réhabiliter les autres stades qui se trouvent au pays.
Voilà. Mboussi, permettez que nous puissions poser la question à notre invité. Pour construire un stade Pierre-Célestin Kabalomonomboui, combien de temps faudrait-il? Parce que les gens disent que le temps ne permet pas. Combien de temps, si on y met des moyens, dans combien de temps on peut avoir un stade moderne?
2 ans, à la troisième année, vous avez la clé sur la porte.
Voilà, Mboussi, vous avez suivi 2 ans, troisième année, le stade se termine si on y met des moyens et de la volonté. On vous écoute pour terminer votre propos.
Oui. Pendant ces 2 ans-là, mais est-ce que ça pourrait vraiment tenir avec tous ces programmes d'organiser la francophonie en 2012, d'organiser le Canada en 2016? Est-ce que le gouvernement congolais a vraiment tous ces moyens pour arriver
Voilà, merci oui. Franck et mon merci le Mboussi, mais bon en fait on vous dit merci, vous nous suivez des Kampala en Ouganda, c'est là vous nous avez appelé de Kampala en Ouganda, mais pour vous répondre et compléter, c'est comme l'a dit Pierre Célestin Kabalomonomboyi, la francophonie c'est d'autres personnes, la CAN c'est d'autres personnes, mais la volonté partagée de tous les côtés avec des partenariats, que ça soit pour la francophonie comme on l'a dit d'ailleurs dans l'émission passée avec madame Isabelle Tchombé, tout cela peut réussir. On va au Kasaï occidental. Franck, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Vous êtes sportif, je crois bien. Nous parlons de la CAN 2015 et tous les auditeurs ont parlé parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Vous êtes le dernier auditeur, je crois bien, de cette émission, Franck. Est-ce que vous êtes pessimiste, vous êtes optimiste? Qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait concrètement pour que la RDC réussisse ses paris?
En tout cas, monsieur Pierrot, moi, je vais tout droit au but pour vous dire que la RDC est en train de tenter sa chance pour marquer son nom. Est-ce que vous savez, je vais vous donner un petit exemple, même en politique, en 2006, nous avons vu même certaines personnalités qui ne sont pas connues, qui se sont présentées comme candidats président de la République. C'était juste pour marquer leur nom. C'est ce que la RDC est en train de faire. Regardez nos challengers qui sont en face de nous, Afrique du Sud et Maroc, les infrastructures sportives qui se trouvent chez eux. Mais par rapport à ce que vous dites ici au Congo, allez tout près ici en Bushmai, ici à Kananga, à Kisangani ailleurs, même à Lubumbashi, le stade-là n'est pas vraiment un stade moderne, M. Pierrot. Je crois que c'est une chance que nous tentons pour marquer seulement notre nom. Et il faut vraiment encore de grands efforts. Vous avez suivi ce que l'expert a dit là-bas. Pour construire un stade, il nous faut au moins deux ans ou trois ans. Mais construire vraiment 4 stades en République démocratique du Congo dans 5 ans, il est vraiment difficile, même si la volonté politique est là, mais les moyens aussi fait défaut.
Mais voilà, Franck, pour vous couper, parce qu'on doit terminer, vous avez suivi notre invité. Le moyen, c'est pas le gouvernement congolais qui met, il y a des partenaires publics privés, des sociétés étrangères peuvent s'engager pour construire, que ce soit un hôtel, que ce soit quelque chose. Mais dis-moi la volonté aussi, n'oubliez pas que la volonté de la CAF, c'est pas de donner toujours à ceux qui ont déjà des stades, mais c'est donner aussi à ceux qui n'en ont pas pour les stimuler à construire assez de têtes d'infrastructures. Ça dit que si on donne à Kananga aujourd'hui, ça va donner l'occasion à Kananga d'avoir des investissements pour enfin construire les stades, parce que vous êtes obligé d'en avoir pour organiser la CAN, Franck.
Mais vous savez, de ce terrain, je vous donne l'exemple de ma ville ici. Il y a un petit stade qui ne peut même pas contenir plus de 10 000 personnes, mais qui a fait 3 ans pour sa réhabilitation. Mais vous savez, mais comment, même s'il y avait la volonté et les moyens étaient là, je ne vois pas vraiment par quel miracle on peut construire les stades, les hôtels, les terrains d'entraînement. Vous voyez, la plupart des terrains d'entraînement sont en train d'être spoliés d'abord par l'État lui-même. Il essaie de peut-être commencer pour construire des maisons, mais je crois que...
Voilà, merci Franck. Merci. Merci Franck, mais avec des moyens et la volonté, on peut construire les hôtels. On voit comment ça pousse ici à Kinshasa quelques mois après. On voit déjà des grands hôtels qui poussent. Bon, on termine cette émission par là. Franck, merci. Vous êtes à Kananga. Pierre Célestin Kabalomonomboyi, on va terminer avec vous. Il y a une préoccupation, c'est dans la gestion des fonds, la gestion de tous ces biens. Les gens voudraient savoir, est-ce que la FECOFA sera impliquée là-bas dans la gestion de tous ces patrimoines de tous ces fonds qui peuvent être mobilisés à gauche, à droite. C'est l'inquiétude aussi des auditeurs. Est-ce qu'on va mettre la FECOFA dedans? Comment s'est fait en principe la gestion pour, parce que l'inquiétude des gens, c'est ça, la volonté politique va de ceux qui organisent, du gouvernement, de tout le monde. Alors, concrètement, comment s'est fait pour qu'on puisse parvenir à ne pas être très inquiet et enfin que cela puisse réussir, et c'est aussi l'occasion de conclure cette émission.
Merci Pierrot, il faut que les auditeurs comprennent ceci. Le comité local d'organisation est le maître d'œuvre. D'ouvrage, pour ceux qui connaissent bien les termes. Et dans les comités locaux d'organisation, la Fédération congolaise est totalement impliquée. Mmh. Elle est même majoritaire parce que tous les cadres dirigeants de la FECOFA sont repris dans le comité local d'organisation. Mmh. Et l'exigence de la CAF est comme telle. Il faut absolument que l'association organisatrice soit majoritaire dans le comité local d'organisation.
Et l'inquiétude des gens, c'est qu'on voit comment le football congolais et la FECOFA, comment les choses marchent, c'est ça l'inquiétude des gens. Mais est-ce que si on les laisse faire, comment ça va? C'est ça vraiment l'inquiétude fondée.
La gestion est à plusieurs niveaux. Mmh. Le comité local d'organisation, si vous voulez, est en amont, juste pour la gestion du projet et le suivi de l'exécution. Mmh. Mais il y a des sociétés d'exécution qui sont, c'est là, c'est à la base. Nous avons des groupes d'entreprises preneurs et qui seront éparpillés à travers les provinces qui sont choisies comme sites principaux et les sites secondaires. Et là-dedans, il y a aussi des sous-sociétés de gestion financière. Mm-hmm. Je vous ai expliqué que le financeur n'est pas l'État congolais, essentiellement, c'est une société américaine.
Qui s'occupe de la gestion des
fonds. Bien sûr, c'est ça la différence. Je crois que les auditeurs doivent faire un effort pour comprendre. Mm-hmm. L'argent qui vient de cette société américaine sera géré méticuleusement avec le concours des experts de cette société américaine. Mm-hmm. Il y a la banque américaine qui viendra ici et qui va pouvoir disponibiliser, et l'argent sera géré et partira de la banque aux constructeurs, donc aux entrepreneurs et toutes les sociétés de construction qui seront choisies. Voilà. Et ces sociétés seront choisies par des modalités qui répondent, n'est-ce pas, à la législation congolaise, évidemment. Mm-hmm. Ce n'est pas l'argent qu'on va remettre aux structures étatiques pour que les structures étatiques
puissent les gérer. Voilà,
non, parce qu'on connaît les faiblesses dans ce genre.
Voilà.
Alors, s'agissant de la volonté, évidemment, notre frère de Kananga dit qu'on a tenté sa chance. Non, ce n'est plus un rêve. Il y a l'argent qui est disponibilisé. Le Congo n'est pas un inconnu sur le plan du football. La preuve, c'est qu'actuellement, vous avez suivi le classement de la Fédération internationale de football, et le premier club africain à être repris dans le classement mondial, c'est le club du Congo, mm-hmm. le tout-puissant Bazembe Anglebert. Alors donc, nous ne sommes pas des inconnus, nous étions le premier pays d'Afrique noire à avoir été à la Coupe du Monde. Nous avons maintenant le devoir de pouvoir nous investir dans les développements du football mondial.
Voilà, et peut-être la dernière question, la délégation des inspecteurs de la FIFA, elle est déjà là. À quand le début des inspections?
Ben déjà, ce dimanche, nous procédons à l'inspection des sites de Kinshasa, mm-hmm. et nous sommes en train de nous débattre pour rejoindre les autres provinces. Mmh. Et le lundi, les inspecteurs seront à Kisangani et très rapidement Lubumbashi, après Lubumbashi Mbujimayi, et le 11 ils vont devoir terminer.
Merci beaucoup Pierre-Célestin Kabalomonambouy d'avoir accepté notre invitation et d'avoir éclairé les auditeurs des Radio Capi. Vous étiez très très nombreux sur notre standard hein, pour intervenir. On sait que les sports ça touche beaucoup de personnes, mais malheureusement on n'avait pas assez d'espace pour tout le monde. Nous vous disons merci, on se retrouve demain vendredi pour les derniers numéros de la semaine. Vous savez qu'à Goma au Nord Kivu, lors de la rentrée académique de cette année, l'accueil réservé aux nouveaux étudiants communément appelés La Bleuzaille a occasionné une bagarre généralisée entre les étudiants de l'université de Goma et ceux de l'ISTA. Nous allons parler avec vous demain dans Parole aux auditeurs. Une seule question pour l'émission. Comment réagissez-vous face à cette situation? Soyez nombreux à réagir à pa@radiocapi.net. Cynthia Bachizi à la réalisation de l'émission, supervisée par Nicole Ngaka, Willem Lungamba à la mise en onde. Pierrot Lameji vous dit merci. Au revoir à tous.